Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous, en direct jusqu'à 20h50 avec toute l'équipe. Salut à tous les cinq. Émilie, votre choix de l'actu du jour.
Il était une figure, une voix du service public, le grand reporter Claude Samper, disparu il y a 2 ans, il avait 55 ans. Son épouse, la journaliste Dominique Lagoux-Samper, témoigne ce soir.
Mohamed, votre story du jour.
Le décès de Mireille Knoll avait bouleversé les Français en 2018. Le meurtrier a été condamné à la réclusion à perpétuité. Le fils de Mireille Knoll réagit ce soir dans cet aveu.
Pierre, votre œil ce soir.
Il y a 6 millions de Français qui sont malentendants ou carrément sourds. Bien sûr, quand il y a des allocutions très importantes, on voit le langage des signes. Nous recevrons une traductrice en langage des signes ce soir.
Patrick, votre édito ce soir.
Imagine-t-on le général de Gaulle en train de nous regarder sur Twitter en ce moment?
Ah, on adorerait. On l'imagine bien volontiers. Mais c'est le choix. C'est le choix. C'est votre édito du jour autour de cette question, imagine-t-on, qui est très à la mode en ce moment. Et Mathieu, dans votre 5 sur 5 ce
on
soir.
On est champion d'Europe de boucherie artisanale. C'était cette semaine à Clermont-Ferrand, on n'est pas peu fiers, la France a gagné le premier championnat d'Europe de boucherie.
Et ça tombe bien ce soir, à notre table du dîner, Pascal Élevé, Sandrine Kiberlin et Nolwenn Leroy qui vont se régaler d'une selle d'agneau championne d'Europe.
Wow.
Préparée par Emmanuel Leblay, notre chef de la semaine, chef de la Piquicouette, dont on ne se lasse pas de dire le nom, c'est ce restaurant à Nîmes. Salut Emmanuel.
Bonsoir. Alors oui, ce soir, une petite selle d'agneau de Camargue bio, farcie avec des péquillos, mini légumes racines, confit avec un petit jus de viande à base de thym et un petit pesto d'herbe.
Voilà. Qu'est-ce qui fait rire les garçons?
L'hypoglycémie.
Ils vont peut-être venir manger pendant l'émission. Attention, vous nous gardez de la selle d'agneau, Emmanuel. C'est votre seule mission ce soir. Merci beaucoup, chef. À tout à l'heure. 11 novembre, jour de commémoration de l'armistice, cérémonie marquée aujourd'hui par l'adieu au dernier compagnon de la Libération, Hubert Germain, décédé le 12 octobre dernier à l'âge de 101 ans.
Serions-nous là sans Hubert Germain? À 20 ans à peine, il quitta tout. Ses terres dromoises, sa famille, ses amis. Pour gagner Londres. Et bientôt, avec honneur et fidélité, se couvrir de gloire à Bir Hakeim.
Les partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme.
La France est liberté. La France est transmission. Elle vit, survit et surmonte ses épreuves. Parce que de génération en génération, des femmes et des hommes se transmettent le flambeau de l'idéal.
Bonsoir Jean-Noël Jeannet.
Bonsoir.
Historien, producteur de l'émission Concordance, des temps tous les samedis à 10h sur France Culture. Merci de votre présence ce soir. Hubert Germain était le dernier des compagnons de la Libération. Il a été inhumé au Mont Valérien dans la crypte du mémorial de la France combattante, caveau numéro 9. Conformément aux souhaits du général de Gaulle qui avait presque conçu le déroulé de la cérémonie qui a eu lieu ce matin dès 1945.
Oui, il est assez merveilleux de se dire que pour une fois, l'ombre du général de Gaulle est légitimement convoquée et qu'il considère les choses avec ce mélange de dignité, de passion, peut-être un peu parfois aussi le sentiment de la cocasserie quand il voit les hommages qui lui reviennent aujourd'hui.
La cocasserie, c'est-à-dire que ces hommages-là l'auraient fait rire ou l'auraient exaspéré?
Il était capable de rire, contrairement à ce qu'on dirait. Il était capable aussi d'être exaspéré, j'imagine. Alors, comme je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut absolument pas faire parler le général de Gaulle après sa mort, et surtout après sa mort. D'ailleurs, il disait lui-même, le gaullisme sans de Gaulle, je n'y crois pas. Quand on parle de je ne sais plus quel chef de gouvernement disait qu'il était un gaulliste social. Ça m'avait paru assez étrange. Vous ne voyez pas de qui je parle. Oui. Donc je suis tout prêt à imaginer le général de Gaulle.
C'est l'actuel.
Tout à fait à imaginer. Merci de mettre une note en bas de mes pages.
Ah, oui,
Patrick Cohen, quand même dans mes rêves les plus fous.
Patrick Cohen est le spécialiste des notes de bas de page.
Il y a tout un livre sur les footnotes en anglais.
Aujourd'hui, Emmanuel Macron s'est recueilli seul dans la crypte devant le cercueil. Très ému d'ailleurs. Il a même versé une larme qui a coulé le long de sa joue, mettant ses pas dans ceux du général de Gaulle, à l'heure où, vous l'avez rappelé, l'une des questions préférées du moment est la suivante. Imagine-t-on le général de Gaulle, Patrick?
Oui, en cette semaine de commémoration, les politiques de tout poil imaginent beaucoup le général de Gaulle, ou ne l'imaginent pas, pour rabaisser leurs adversaires et se disputer l'héritage du grand homme. François Fillon, on s'en souvient, avait inauguré l'exercice. Imagine-t-on le général de Gaulle mis en examen? Effet boomerang ravageur, on a imaginé encore moins de Gaulle condamné pour détournement de fonds publics. Mais depuis, c'est le printemps des imagine-t-on. De Gaulle aurait-il fermé les librairies, défendu les LGBT, invité à l'Elysée McFly et Carlito, présenté son pass sanitaire pour se rendre à Londres, etc., etc. En réalité, ces envolées grandiloquentes et anachroniques, ces rêves de grandeur opposés aux mesquineries du temps présent, en disent moins sur la vérité de l'histoire et du personnage que sur la puissance du mythe gaulliste, sur la force d'une mémoire que de Gaulle a lui-même sculptée. Alain Perfitte, son ministre de l'Information, qui fut l'un des gardiens de sa statue, disait « la vérité de Gaulle est dans sa légende ». Or, le dernier biographe du général, Julian Jackson, a magistralement montré l'envers de la légende et la complexité du personnage, ses ambiguïtés, ses paradoxes, ses renoncements et son pragmatisme. Selon Jackson, si de Gaulle a eu toute sa vie une certaine idée de la France, c'est sa phrase la plus célèbre, celle qui ouvre les mémoires de guerre, eh bien cette idée ne fut pas toujours la même. Ces imagine-t-on puisent dans un imaginaire largement fantasmé.
Vous avez des exemples?
Oui, quelques anecdotes tirées de son exercice du pouvoir, c'est ma contribution au jeu des imagine-t-on. Ainsi, imagine-t-on le général de Gaulle supprimer la commémoration du 8 mai 45? Absurde. Eh bien, pourtant, il l'a fait. Dès son arrivée au pouvoir, il décide par décret que le jour de la victoire sera célébré le deuxième dimanche de mai, en même temps que Jeanne d'Arc. Le 8 mai sous de Gaulle ne sera plus ni férié, ni chômé. C'est François Mitterrand, en 81, qui rétablit le 8 mai férié. Autre exemple. Imagine-t-on le général de Gaulle rabrouer les anciens combattants de la guerre de 14 après avoir supprimé leur retraite? Impensable. Mais si, les poilus rescapés de la Grande Guerre font partie des premiers sacrifiés de son budget et après leur tollé, regardez comment il leur parle en conférence de presse.
Sur les 320 milliards, on en a retiré 7. 7. Et on les a retirés à ceux qui n'en avaient pas besoin parce qu'ils n'étaient pas économiquement faibles et qui en outre étaient valides. Je ne dis pas que c'était très drôle. Ça n'a été drôle pour personne, et en particulier pas pour celui qui vous parle. Mais c'était vraiment une nécessité. Les anciens combattants sont faits pour être les premiers à l'honneur. Ils ne sont pas faits pour être les premiers à la revendication.
Voilà, silence dans les rangs, gardez vos médailles et fermez vos gueules en langage d'aujourd'hui. Et comme de Gaulle doit incarner l'ordre et l'autorité, il ajoute ceci.
Ce qui a été fait ne sera pas changé. Quand il s'agit d'un domaine d'intérêt national, le pouvoir ne recule pas.
Le pouvoir ne recule pas, et là vous me voyez venir. Imagine-t-on le général de Gaulle reculer sur une mesure d'intérêt national? Imagine-t-on le général céder aux pressions? La réponse est oui, l'allocation du combattant sera rétablie quelques mois plus tard. C'est le sens du possible dont parle Jackson, et aussi des exemples, les poilus le 8 mai, qui ont fait dire à l'historien Henri Rousseau que de Gaulle n'aimait pas la mémoire, qu'il lui laissait peu de place, sauf la sienne. Et de ce point de vue, il a admirablement réussi.
Jean-Noël Jeannet, sur les exemples choisis par Patrick, sur la façon dont la réalité... du général de Gaulle était bien plus complexe et moins fantasmé que la légende qu'on convoque toutes les cinq minutes aujourd'hui.
Mais avec les fulgurances inouïes qu'il a eues sur le long terme, c'était d'abord un réaliste. On ne fait pas de politique autrement que sur des réalités. Je n'imiterai pas son ton, mais vous pouvez l'introduire dans mon propos. Et c'est une démonstration absolument évidente. Je veux dire, c'est pas un saint de vitrail, général de Gaulle, c'est une figure magnifique dont l'inspiration peut aujourd'hui appartenir à tout le monde. Le gaullisme sans de Gaulle, je n'y crois pas, il y croyait, mais à condition qu'il appartienne précisément à tout le monde.
Et sur la puissance du mythe qui fait qu'aujourd'hui, sa figure est omniprésente, voire toujours écrasante, et dans la mémoire des Français, et dans le débat public et politique.
Oh, si on cherche à expliquer cela, je crois qu'il faut aller chercher d'abord la magnificence du geste, la formidable intuition du 18 juin, la capacité aussi de parler court et de voir loin. son éloquence aujourd'hui demeure, grâce aux archives magnifiques de l'Institut national de l'audiovisuel, on peut accéder à ses conférences de presse et on les réécoute chaque fois de façon extraordinaire. Mais il y a d'autres sources passionnantes. Je vous recommande sa correspondance. Correspondance qui a été publiée et qui est d'une richesse pour restituer ce qu'a pu être la vie politique, qu'a pu être la vie sociale et la vie littéraire. Car j'ajouterais qu'un des grands mérites, le mot est faible à mes yeux, du général de Gaulle, c'est sa formidable culture. Un médecin, Larcan, a réuni dans un livre l'ensemble des références que de Gaulle a pu évoquer au cours de sa vie. C'était magnifique. Et je pense que quand on porte un jugement sur un chef d'État, il faut prêter attention à l'idée qu'il se fait du passé, à la connaissance qu'il en a, la manière dont il situe son action dans la longue durée de l'histoire et parfois, plus ironiquement, la manière dont il l'instrumentalise.
Mardi, les politiques étaient très nombreux à Colombey, les deux églises, pour célébrer la mémoire du général de Gaulle, 50 ans après sa disparition. C'était un véritable embouteillage d'hommage. Vous demandiez déjà en 2020, on s'en souvient dans le Figaro, qu'on arrête d'instrumentaliser le gaullisme. Ce qu'on a vu mardi à Colombey, les deux églises, c'était de la basse instrumentalisation d'une figure du passé ?
Tout dépend comment on regarde les choses. S'il s'agit de rendre hommage à cette magnifique figure, dans sa complexité, bravo. Mais si c'est une façon de s'en servir... Écoutez, il y a un cas tout à fait frappant. C'est vraiment celui de Mme Le Pen.
Le Pen.
C'est l'actuelle présidente de ce parti...
Elle n'est plus
nationale.
Présidente du Rassemblement
non,
national, mais elle est la candidate
oui,
du
c'est
Rassemblement
ça,
national.
C'était aussi, le nom, le nom du parti de Marcel Déat, pendant, mais vous parlerez peut-être de Vichy tout à l'heure. En tout cas, je suis très frappé quand je considère cela par le fait que nous nous rappelons assez bien comment M. Alliot, l'actuel maire de Perpignan, qui est aussi proche, je crois, de Mme Le Pen, allait régulièrement, récemment encore, il s'est peut-être arrêté, déposer une gerbe sur la tombe de Bastien Thiry. Je vous rappelle que Bastien Thiry, c'est l'homme qui a cherché à tuer le général de Gaulle et qui a presque réussi le 22 août 1962 au Petit Clamart. Alors, ce genre de contradiction, je laisse ceux qui les portent les gérer, si vous le permettez.
Comment l'historien que vous êtes juge-t-il le fait que l'extrême droite, qui a combattu, vous le rappeliez, Charles de Gaulle, semble vouloir le récupérer ?
Oh ben, c'est de pratique... assez ordinaire, notamment sur ce bord-là. On peut faire feu de tout bois. Mais ce feu-là, ce bois-là, je n'ai pas envie de leur abandonner.
Dès juin dernier, dans une de ses premières vidéos sur les réseaux sociaux, Éric Zemmour, lui aussi, envoyait ce message depuis Lille, la ville de naissance du général.
Le profil d'un type comme le général de Gaulle, c'est d'abord un intellectuel, d'abord un écrivain, avant d'être un soldat. Et c'est un type qui écrit. C'est un soldat qui écrit, qui réfléchit, qui connaît l'histoire de France sur le bout des doigts. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il se projette dans l'avenir le mieux qu'il peut, parce que c'est quand on connaît l'histoire de France qu'on peut savoir ce qui va arriver. Quand on ne la connaît pas, on croit que la France est sortie de l'histoire. C'est exactement ce qui nous arrive aujourd'hui.
Voilà une tentative un peu dérisoire d'autoportrait. Hein ? Encore un qui prétend s'assimiler au grand homme que nous évoquons aujourd'hui. Parce que connaître l'histoire, ce n'est pas la déformer, ce n'est pas...
La revoir.
C'est pas un lit de Procuste, l'histoire. Vous savez, on met l'histoire en coupe. On mettait Procuste, le brigand qui mettait ses prisonniers sur un lit, coupait ce qui dépassait. Et éventuellement, et d'ailleurs, il martyrisait le malheureux prisonnier. Alors, enfin, c'est une faribole, c'est une bilvésée, c'est une calembredaine, ces propos. Choisissez le mot que vous voudrez.
C'est pas du révisionnisme, carrément.
On peut en imaginer d'ailleurs d'autres plus sévères.
C'est pas du révisionnisme quand Éric Zemmour, par exemple, affirme que Pétain a protégé les Juifs français, mais aussi a jeté le soupçon sur l'innocence du capitaine Dreyfus.
Non, le révisionnisme...
C'est juste un redécoupage de l'histoire.
Non, attendez, le révisionnisme, ça n'est pas ça. Le révisionnisme, c'est notre tâche constante des historiens. Ça consiste à poser de nouvelles questions au passé, de remettre en cause un certain nombre d'interprétations. Non, ce qui est haïssable, c'est le négationnisme. C'est le négationnisme. Quand on nie que le maréchal Pétain a en fait livré des juifs aux martyrs, alors là, c'est du négationnisme. Et je renvoie à l'admirable éditorial que je salue, que vous avez, Patrick Cohen, prononcé l'autre jour ici, qui était tout à fait clair à cet égard et que j'aimerais qu'on se repasse souvent en boucle. C'est pas la complaisance que je dis, mais de temps en temps, un petit compliment pour des gens qu'on estime, c'est pas mal.
C'est le retour d'une pensée que vous pensiez ne plus entendre aussi publiquement en France.
Oh non, je pense que il peut toujours y avoir des remugles, il peut toujours y avoir la résurgence de bulles d'infamie qui ressurgissent à la surface de l'étang. C'est cela. Il y aura toujours des personnages qui utiliseront le passé aux fins de leur de leurs actions. Vous parlez de ce personnage dont je ne donne pas
Eric
le nom.
Zemmour.
J'ai bien, je vous laisse le nommer. Ah, c'est toi qui l'as nommé. Comme... Bon,
vous ne voulez pas le nommer ?
Oh, le moins possible. Enfin, de toute façon, étant donné qu'il est invité par tous, même si je ne le nomme pas, ça n'aura pas beaucoup d'influence sur l'écho qu'auront ses paroles.
Et qu'il mais sera là, vraisemblablement la, candidat la, à l'élection la, présidentielle.
J'ai bien noté cela, ça peut en effet provisoire. Non, mais ça permet de réfléchir à l'instrumentalisation de l'histoire. Il y a toutes sortes de manières de le faire à titre individuel. On peut toujours aller chercher dans le passé tel ou tel moment qui vous rassurera ou vous confortera. Je voulais un exemple. Pierre Mendès-France, pour qui j'ai beaucoup d'estime, après l'échec du référendum de 62, qu'il avait violemment combattu et qui a introduit, vous le rappelez, l'élection du président de la République au suffrage universel, a rappelé dans une lettre à une amie qu'il y avait eu aussi un plébiscite en 1871, à la fin du Second Empire, qui avait été très brillant au profit de Napoléon III. Il ajoutait, mais rassurez-vous, quelques semaines plus tard, c'était Sedan. Alors ça ce sont des... On le pardonne finalement aux uns et aux autres. C'est une manière d'aller chercher concordance des temps privés, si vous voulez bien, ce qui peut servir votre espoir, vous réassurer. Mais en revanche, remettre en cause des vérités qui sont des vérités avérées. Je ne me hausse pas du col en tant qu'historien. Mais enfin, il y a un travail des historiens, de l'historiographie. On arrive à un certain nombre de véracités. La vérité, elle existe, mais elle peut être considérée sous des angles différents. En revanche, la véracité, c'est certain. C'est une donnée que le maréchal Pétain a renforcé la loi ignoble d'octobre 1940 contre les Juifs. C'est une donnée qu'à partir de 1942, il a de fait contribué à livrer les Juifs de France à la barbarie et à l'extermination. Alors, on peut dire tout ce qu'on veut. On peut dire aussi que l'affaire Dreyfus, on n'est pas tout à fait sûr que Dreyfus était innocent. Il a peut-être été condamné. J'ai presque dégoût à citer ces phrases, mais après tout, vous m'y invitez. Il a été condamné comme allemand, il n'a pas été condamné comme juif. Enfin, tout ça, ce sont des choses qu'il ne faut pas se lasser de dénoncer. Après tout, c'est notre rôle civique, parmi beaucoup d'autres universitaires, que lorsqu'on est interrogé sur cela... Il convient de le faire. Les sources, on les connaît, vous savez, parce que nous connaissons bien l'œuvre de Charles Maurras, Jacques Bainville, le grand historien qu'il cite toujours, qui était l'historien de l'Action française. Éminent personnage, effectivement, qui haïssait la Révolution française, qui, d'une certaine façon, haïssait ce qu'était l'universalisme français. Celui-là, on le repère bien, ça n'empêche pas de le lire, mais on le lit au deuxième degré, comme révélateur d'une sensibilité. Et voyez-vous, je me rappelle souvent, à titre symbolique, le fait que Léon Blum, au moment des obsèques de Bainville, en 1936, au début de 1936, s'est trouvé par hasard, avec sa voiture, croisé le défilé mortuaire de Bainville, a été reconnu par des militants de l'Action française, ceux que célèbre aujourd'hui, j'imagine, le monsieur dont vous parlez, et qu'on a commencé à lui taper dessus, qu'il a été molesté très gravement, et il aurait peut-être été tué si des ouvriers qui travaillaient sur une façade qu'on était en train de ravaler, boulevard Saint-Germain à côté, n'étaient pas venus se porter à son secours. Vous voyez, ce que j'aime dans l'histoire, c'est qu'on peut illustrer des propos généraux avec des moments précis et en tirer des informations qui ne sont pas toujours inutiles pour éclairer le civisme des compatriotes.
Tout près de là, Jacques Bainville a obtenu une place dans Paris. Je me suis toujours demandé pourquoi. En plein cœur de Saint-Germain-des-Prés, tout près du boulevard Saint-Germain.
Immense sujet que celui des noms des rues, de leur changement, de leur évolution. Il faut faire une petite enquête, on va sûrement la faire, pour savoir à quel moment et par quelle majorité a été décidé...
En 61.
Ah, vous avez cherché.
Ouais.
61, il n'y a pas encore de maire de Paris. Enfin,
c'était sous De Gaulle.
C'était un autre type de décision. Oui.
La cérémonie du jour, c'était le dernier grand acte commémoratif du président de la République, une sorte d'aboutissement de son travail de mémoire entamé au début de son quinquennat, un travail de mémoire important pour lui, on l'a compris, mais pas toujours facile à faire passer. En 2018, il avait prévu une semaine d'itinérance mémorielle pour marquer les 100 ans de la fin de la Première Guerre mondiale, et c'était au contact des Français.
Depuis cinq jours, les interpellations rythment le parcours des commémorations. Dans chaque ville-étape, le chef de l'État est systématiquement confronté à la colère des Français.
Monsieur le directeur du site, cher Thierry, cher Mouna. Bonjour monsieur, vous n'êtes pas apparemment majoritaire.
Qu'est-ce que vous avez dit pour l'essence hier? Vous allez donner 20 euros non. à ceux qui font 30 km, je suis désolé. Alors nous, on fait, quoi, 5 km?
Alors, l'essence d'abord, qu'est-ce que c'est?
L'essence. C'est pas ça. Arrêtez avec les primes, ça sert à rien. Non. Qu'on donne des salaires pour que les gens ils arrivent à vivre.
Ah, mais je suis d'accord.
Avec ma retraite, je peux pas payer des tenues rutilantes comme vous voulez. Vous comprenez, ma femme, elle, a des petits, elle met des petits jeans troués, mais bon.
Sentez le malaise qui monte de Paris.
Je le sens.
Sentez-le.
Moi, j'agis,
parce que vous allez,
monsieur.
Vous allez le sentir le 17 novembre. Vous allez le sentir en France.
Je le sens chaque jour et j'ai pas attendu.
Cette semaine d'itinérance mémorielle est cette fois un exercice raté selon vous ou la preuve qu'on ne peut jamais délier l'actualité, les préoccupations présentes de l'histoire?
Ah, la preuve n'a pas à être faite qu'on ne peut jamais délier en effet, comme vous le dites, l'actualité du passé, puisque chaque instant du présent, chaque conjoncture toujours spécifique est toujours, s'organise constamment à la rencontre de différentes temporalités. Mmh. Il y a l'immédiateté, il y a le hasard, il y a une petite phrase qui répond à une petite phrase, et puis il y a les mouvements qui sont plus lents, annuels, puis pluriannuels, générationnels, et puis les mentalités extrêmement lentes qui bougent de façon très, très, très ramassée, très, très, très contrôlée. Ça pose également la question que je trouve très intéressante en histoire, la question justement des petites phrases. Petite phrase, c'est un sujet qui mériterait que... C'est pas un appel du pied, vous, vous me réinvitez, vous avez compris. Vous avez compris. Enfin, il y en a qui sont très efficaces. Hein. Veni, vidi, vici, aller à Jacques Taès, c'était pas mal. Ou du haut de ces pyramides, 40 siècles, vous contemple. En revanche, je ne ferai pas l'anthologie, mais notre président, qui est éloquent et qui est bien sur la longue durée, il a parfois des moments de phrases un peu maladroites. Et on pourra en citer d'autres... On peut en citer d'autres, dans d'autres bouches, évidemment, à d'autres moments. Parce que quand on parlait de 70 tout à l'heure, quand Émile Ollivier a dit, au moment du début de la guerre 70, que nous avons perdu, comme vous le savez, a dit « Nous partons pour la guerre d'un cœur léger ». Imaginez la télévision aujourd'hui, on passerait à peu près en boucle tout le temps. Et d'ailleurs, il n'a pas pu s'en tirer. Il n'a jamais réussi à rentrer en politique. Le maréchal Lebeuf avait dit « Il ne manquera pas un bouton de guêtre ». Voilà une petite phrase.
Qui lui reste collé.
Paul Reynaud, la route du fer est coupée. Enfin, non, c'est intéressant parce qu'il y a certaines qui sont contrôlées et d'autres qui vous échappent et qui révèlent par conséquent des sensibilités plus dissimulées. Ou simplement parfois des maladresses. Parce que maintenant qu'on est photographié, filmé tout le temps, il est très difficile de ne pas avoir un lapsus de temps en temps. Même vous, j'imagine, ça peut vous arriver.
Malheureusement.
Oui.
Puisqu'il n'en faut, en ce qui me concerne.
Ça ne me dit rien.
Oui. Je remarque à quel point vous réunissez des flagorneurs. Du côté droit, exclusivement.
Oui, parce que du côté gauche, je vois bien que vous êtes...
D'une sévérité.
D'une sévérité, exactement. Vous ne laissez rien passer. Vous restez avec nous, cher Jean-Noël Jeannet. On continue à évoquer l'actualité. C'est l'heure de la story de Mohamed Bouabsi.
Bonsoir.
Vous connaissez ?
Merci. Le meurtrier de Mireille Knoll, tué chez elle en 2018 parce que juive, a été condamné à la perpétuité, Mohamed.
Le 23 mars 2018, vers 18h30, les pompiers entrent dans un appartement après un incendie. Ils découvrent le corps sans vie et en partie brûlé de Mireille Knoll. Elle a reçu 11 coups de couteau. La femme de 85 ans, qui avait évité à quelques jours près la rafle du Veldiv, a été sauvagement tuée en raison de sa religion juive. Deux hommes ont été condamnés hier dans cette affaire dramatique.
Actualité judiciaire maintenant avec la condamnation de Yacine Mioub à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de Mireille Knoll à Paris il y a 3 ans, crime antisémite.
Alors, condamnation assortie d'une période de sûreté de 22 ans, autrement dit davantage que les 18 demandés par l'avocat général.
Des circonstances aggravantes ont été retenues. Meurtre sur personne vulnérable, Mireille Knoll souffrait de la maladie de Parkinson. Le caractère antisémite du meurtre et du vol a lui aussi été reconnu par la cour d'assises de Paris.
Le meurtrier, Yacine Mioub, avait été condamné pour avoir agressé sexuellement la fille âgée de 12 ans de l'aide-soignante de Mireille Knoll. Le deuxième condamné, Alex Karibinkus, avait rencontré son complice en prison. L'un des deux accusés avait reproché aux Juifs d'avoir des moyens financiers et une bonne situation. Mireille Knoll connaissait son meurtrier depuis l'enfance. Atteinte de la maladie de Parkinson, juste avant de mourir, elle avait offert 2 verres de Porto à ses bourreaux. Ils l'ont volé, puis l'ont poignardé. En 2018, quelques mois après le décès de Sarah Halimi, la mort de Mireille Knoll avait bouleversé les Français. Une France touchée dans ses valeurs.
Valeurs niées par le meurtrier de Mireille Knoll, qui a assassiné une femme innocente et vulnérable parce qu'elle était juive, et qui ainsi a profané nos valeurs sacrées et notre mémoire.
Lorsqu'il s'agit de lutter
contre l'obscurantisme ou contre l'antisémitisme. Tout ce qui rassemble grandit.
Non seulement elle a échappé la pauvre à la Shoah, mais elle termine sa vie comme ça. Et puis bon, il y en a un petit peu assez hein, de toutes ces tueries.
Le meurtrier de Mireille Knoll croyait que la victime était riche. Ils n'ont quasiment rien trouvé dans l'appartement. L'homme a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans. Un soulagement pour le fils de l'octogénaire qui a accepté de se confier à Audrey Payas et Camille Schmitt.
Ni l'un ni l'autre n'ont eu le courage de reconnaître leurs responsabilités et de les assumer. Durant ce procès, j'ai perdu 8 kilos. Ça a été une période très éprouvante. Il a pris le maximum que l'on puisse prendre. Et ça, c'est une décision qui est tout à fait satisfaisante. Je vais commencer mon deuil maintenant.
Les enfants de Mireille Knoll réclament une journée d'hommage le 23 mars pour les martyrs, ceux qui sont victimes d'actes anti-religieux. Selon le service de protection de la communauté juive, en 2020, on dénombre 339 actes antisémites, en baisse par rapport à 2018 et 2019 en raison du confinement. Et pourtant, malgré le confinement, on recense 44 agressions violentes, soit quasiment le même nombre qu'en 2019. Jean-Noël Jeannonet, est-ce qu'il y a un moment dans l'histoire récente de la France où paraît se concentrer cette problématique violente de l'antisémitisme ?
Oui, je pense spontanément, j'y reviens au moment de l'affaire Dreyfus, qui reste un creuset essentiel pour notre modernité. On peut en faire deux lectures. On peut dire que Dreyfus a été condamné parce qu'il était juif, de façon ignoble, comme vous savez, avec des pièces secrètes. Mmh. On peut dire aussi que, contrairement à la plupart des pays d'Europe, il avait pu devenir officier supérieur dans l'armée française. À partir de là, on peut dire qu'il a été néanmoins innocenté. À partir de quelle difficulté ? Et qu'en même temps, il était... Il avait été dans une période, ça n'avait pu se passer cela que parce qu'il y avait une ambiance générale qui était marquée par une vraie poussée d'antisémitisme. Donc il y avait les deux à la fois, l'infâme Drummond, la France juive, etc., etc. Et je suis frappé par le fait que des conséquences en ont été tirées de façon absolument opposée par deux grandes personnalités juives. D'une part, Herzl, fondateur, enfin, aspirateur de l'État d'Israël, l'État juif d'Israël, qui a dit on ne peut pas rester en France dans un pays qui a pu condamner un homme de façon ignominieuse parce qu'il était juif. Et de l'autre, Lévinas, le père du grand philosophe Lévinas, qui a dit à son fils il faut que nous allions là, nous allions en France, puisque c'est un pays qui a été capable, après une ignominie commise, de faire surgir la vérité et d'innocenter le malheureux que l'on avait tâché de livrer à la raison d'État. L'ambivalence me paraît être là et continuer d'être valide chaque fois qu'il y a des poussées. Et il y en a eu souvent, dans l'entre-deux-guerres en particulier, il semble qu'il y en ait aujourd'hui de la façon la plus sinistre et fétide possible. Il faut se rappeler ces deux aspects, ces deux volets possibles. Évidemment, moi j'ai tendance à choisir le volet optimiste.
Le volet Lévinas.
Le volet Lévinas, oui. Parce que, après tout, la France n'a pas été un long cri d'antisémitisme à travers le XXe siècle. Mais chaque fois qu'il y a une flamèche, il faut évidemment l'écraser.
Merci beaucoup Mohamed, à tout Merci à l'heure pour la Story Média. Émilie, hommage ce soir au grand reporter Claude Samper.
Oui, il était une figure familière et l'une des grandes voix des informations françaises. Les mots du président de la République pour saluer la mémoire du journaliste Claude Samper, hommage de l'Élysée et de ses confrères également.
Rendre hommage à l'un de nos confrères de France 2 qui nous a quittés hier.
Claude Samper était, vous le savez, grand reporter à France 2. Tout le monde l'appréciait énormément.
Il était notre confrère, notre ami. Claude avait 55 ans. Nous pensons à lui ce soir, à Dominique, à Mathilda et à Esteban.
Hommage ému de Laurent Delahousse à ce grand reporter de France 2. Il avait été embauché quand la chaîne s'appelait encore Antenne 2 en 1990. Il avait 26 ans et il n'a plus jamais quitté le service public. Pour lui, il a même arpenté le monde.
Et on retrouve maintenant Claude Samper à Djibouti.
C'est un ancien village de pêcheurs qui est devenu un véritable repère de pirates. Écoutez, la population est complètement en état de choc. Aujourd'hui encore, on a opéré plusieurs opérations de sauvetage.
Mais Claude Samper n'était pas de ceux qui pensent qu'il faut forcément partir loin sur les terrains dangereux pour raconter le monde. C'est en Corse que Claude Samper avait notamment décroché le témoignage de Claude-Antoine Bourgeois, un homme enlevé par une faction du Front de Libération Nationale Corse, menacé de mort avant d'être libéré contre rançon. Un reportage sur ce milieu corse dont il était devenu l'un des spécialistes, qui lui a valu d'être récompensé par le prestigieux prix Albert Londres en 1997. Ce qui faisait de Claude Samper un journaliste de talent, c'était son empathie. Preuve avec cet autre reportage plongé dans un refuge de jeunes filles forcées à la prostitution du Cambodge qui l'avait amené à libérer l'une d'elles de proxénètes. Claude Samper a succombé à un cancer, son troisième, il avait 55 ans.
Dominique Lagroux-Samper était l'épouse de Claude Samper. Dans un livre, cette journaliste, grande reporter pour TF1, a voulu écrire pour fixer ses souvenirs. Elle est ce soir notre invitée. Bonsoir Dominique Lagroux-Samper, grand reporter à TF1 et auteur d'Après l'orage, paru le 3 novembre dernier, dans lequel vous racontez le combat mené aux côtés de votre mari Claude contre la maladie. 2 années, 7 mois de combat contre un cancer des poumons, 973 jours précisément à affronter la perspective de la mort. Ce que votre mari a fait en prenant des notes, en noircissant des pages que vous n'avez découvert qu'après sa disparition, des mots bouleversants de journaliste, d'un professionnel qui a parcouru le monde, couvert des conflits, approché le danger et évoqué la mort d'autres femmes, d'autres hommes et qui s'interrogent. Quel courage a-t-il fallu à James Foley, à genoux dans le désert avec le couteau d'un salopard de l'État islamique sur la gorge? Quel courage a-t-il fallu au DJ Avicii dans une chambre d'hôtel pour en finir avec un tesson de bouteille? Comment affronter la mort? Voilà les interrogations de Claude Samper. Lui qui se mettait en colère quand on lui souhaitait bon courage.
Oui, ça c'est vrai. Il avait même barré comme ça sur une feuille que j'ai retrouvée. Ne dites jamais bon courage. Mais non. Et je suis tellement d'accord avec lui. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quoi dire à quelqu'un qui est mort, qui est mort, qui va mourir, une veuve. Et on dit ben, bon courage. Sauf que c'est vraiment idiot. Alors on a envie de... Voilà, on n'ose pas dire les choses. Et Claude, il voulait simplement... voilà, qu'on sache qu'il s'est battu comme un sacré bonhomme, un sacré père. Ça me fait très plaisir de revoir ces images. Je peux vous dire que mes deux enfants sont devant la télé, là. Et en fait, je trouve ça formidable parce que, OK, il n'est plus là. Il n'est plus de chair et d'os. Je ne peux plus le serrer, l'embrasser, et mes enfants plus jamais. Sauf qu'il est vivant, il est toujours très présent de par sa voix. Et ce livre-là, il ne faut pas se tromper, ce n'est pas du tout un livre sur la mort. C'est
non.
Vraiment un livre sur la vie.
Sur la vie et sur la façon dont il se mettait en colère, il se révoltait contre l'idée de partir. Vous aussi, Dominique, la colère contre la maladie, contre le pneumologue qui pose le diagnostic et contre l'oncologue qui vous annonce que les chances de survie de Claude sont limitées. Ça vous met hors de vous, au point de vous rendre agressive, une rage presque animale, parce qu'il faut bien trouver un responsable.
Oui, et cette rage, c'était vraiment la preuve que j'étais sur mes deux guiboles, en fait. Il fallait que je trouve, évidemment, un responsable. Il n'y en avait pas. J'ai commencé à comprendre qu'il ne fallait pas que je me pose des questions parce qu'il n'y avait pas de réponse. Donc oui, j'en ai voulu à la terre entière, j'en ai voulu à ces médecins. Et c'est ces mêmes médecins qui ont été des gens, des femmes et des hommes incroyables. Son oncologue, que j'ai traité de tous les noms, que j'ai appelé après la mort de Claude en lui disant « Bon, je crois que je dois m'excuser », elle m'a dit non. Parce que le fait que, justement, vous ayez eu cette colère-là, ben, c'est aujourd'hui la preuve que vous êtes encore là.
Du côté de la vie.
Exactement.
La colère, le courage, mais la dignité sur toutes ces adieux que vous décrivez. Vous communiquez tous les deux, dans les derniers jours de Claude, grâce à une ardoise, des mots écrits et la réponse de Claude par un pouce levé. Vous lui proposez de dire au revoir, d'appeler quelques amis dont il a pu entendre la voix. Oui. Juste avant, Claude avait esquissé sur l'ardoise un point d'interrogation. Vous comprenez qu'il vous demande s'il va mourir et vous lui répondez sans détour.
Bien sûr, c'était une promesse qu'on s'était faite. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui se laisse avoir par beaucoup de monde, c'est quelqu'un qui était très franc. Très rude. Et quand il a su qu'il allait mourir, et il le savait depuis pas mal de temps, il m'a dit « Je veux surtout que tu me dises si je vais mourir et surtout qu'on ne s'acharne pas. » Donc, quand tu verras que c'est fini, tu me le diras. Et évidemment, moi, jusqu'au bout, j'y ai cru. Parce que je suis comme ça. Parce qu'évidemment qu'on peut, on peut foutre en l'air ce cancer. Les médecins m'ont dit « C'est fini. » Et quand il a fait ce point d'interrogation, je lui ai dit oui. Et il m'a dit, je veux voir mes enfants. J'ai dit, tu vas voir tes enfants. Et j'ai dit, tu vas dire au revoir à tes potes. Il me dit, ouais, je vais dire au revoir à mes potes. Et il était apaisé parce que je ne lui ai pas menti. Voilà, et c'était ma promesse.
Vous avez écrit ce livre d'une traite, avez-vous expliqué, en un mois. Vous l'avez fait notamment pour les enfants que vous avez avec Claude.
Oui.
Ils avaient 12 et 14 ans quand leur père est parti. Donc c'est pour eux que vous l'avez écrit et c'est eux qui vous ont demandé de le publier après avoir lu vos textes.
Oui, exactement. C'est bien que vous me posiez cette question. C'était une lettre d'amour au départ. C'était absolument pas fait pour être un livre. C'était pour eux. Parce qu'effectivement, ils n'ont pas connu non plus leur père avant, quand il était grand reporter et qu'il était prix Albert Londres. Ils ne savaient pas, ils étaient trop petits. Donc c'était important pour moi de leur dire qui était leur papa. Et puis de leur dire, voilà, il n'est plus là. Il n'y aura plus de voix, il n'y aura plus de toucher, il n'y aura plus d'odeur. Il n'y aura plus de café le matin parce qu'il se faisait du café. Moi, je n'aimais pas le café, du coup, je fais du café le matin et j'adore le café maintenant. Et mes enfants l'ont lu. Les chiens ne font pas des chats. Ces enfants-là, qui sont les nôtres, ont un sacré caractère. Et je regarde Claude en parlant. Ils m'ont dit, maman, on sait par où tu es passé. On sait que tu as sombré. Et on sait aujourd'hui que tu es dans la vie et dans le bonheur et que tu aimes. Et si ça peut aider une femme... à se déculpabiliser, à se dire qu'on peut sombrer, qu'on peut remonter, à se dire que la vie est plus forte que cette saloperie de mort et de cancer, il faut que tu le fasses. Et j'ai eu leur aval, et c'était parti.
Justement, vous en parlez avec beaucoup de pudeur, vous parlez de ce nouvel amour, cette vie d'après Claude, mais vous ne prononcez jamais son nom, parce que vous dites aussi, oui, le regard de la société est tellement culpabilisant.
Évidemment, la plus belle leçon que j'ai reçue, c'est celle de mes enfants. Parce que quand j'ai senti que mon cœur vibrait et que je suis faite de ça, c'est-à-dire que si aujourd'hui je vous parle et que je suis sur mes jambes, c'est parce que j'aime. J'aime cette vie et j'ai besoin d'aimer. Quand j'ai rencontré cet homme extraordinaire qui a dû faire sa place dans notre famille, parce que passer après Claude, c'est costaud. Je leur ai dit à mes enfants, je ne vous mens pas, il se passe quelque chose dans ma vie, mes enfants m'ont donné le droit d'aimer. Et je trouve que cette réponse-là, c'est une sacrée leçon à tous ces gens qui se permettent de projeter leur propre peur d'aimer à nouveau. Ce livre, c'est évidemment pour graver Claude et pour que ce soit un très joli témoignage pour mes enfants, mais c'est surtout pour dire à cette femme qui va lire ce livre, à cet homme qui a perdu sa femme, à des enfants qui ont perdu leurs parents, faites confiance à celle qui est veuve aujourd'hui, qui est veuve, faites-lui confiance. Son intuition à elle est la bonne. Si elle a envie d'aimer, si elle sent que cet amour est là, c'est sa survie à elle. Et on n'a pas le droit de juger. Et aujourd'hui, je trouve qu'on juge terriblement. Moi, je me souviens, j'ai toujours eu un sourire sur moi. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas pleuré, que je n'ai pas été très mal. Et j'avais le droit à... souris déjà. Ouais, je souris déjà, ouais. Et alors, c'est quoi le problème? Vous pleurez et on vous dit, elle ne va pas s'en sortir. C'est la veuve endeuillée, c'est fini. Mais vous êtes qui pour me dire ça? C'est vraiment un cri de vie parce que c'est de dire, c'est mon histoire. Chacun la vit comme il le peut. Mais s'il vous plaît, ne jugez personne et laissez juste les gens à leur histoire, à leur amour. Et c'est ça une survie, après le deuil.
Après l'orage, c'est signé Dominique Lagroux-Sempère, préfacé par Jean-Pierre Pernaud, auprès duquel vous avez travaillé pendant 7 années au 13h de TF1 et qui fait partie de ceux qui vous ont porté parce qu'il a continué à vous voir d'abord comme une journaliste, comme une consoeur et qui a compris qu'il vous était absolument primordial de continuer à travailler. Merci beaucoup, cher Dominique, d'être venu ce soir sur le plateau.
Merci à vous.
Votre témoignage est à lire aux éditions Flammarion. C'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Bonsoir, cher Mathieu. On commence avec un bras de fer entre Air France et un couple de parents.
Léon a 3 mois, c'est un grand prématuré, 530 grammes à la naissance. Depuis sa naissance, il est hospitalisé à Nice. Léon doit être opéré des yeux en urgence et l'hôpital niçois organise un rapatriement sanitaire en avion pour Paris. Problème, Léon n'a pas encore de document d'identité. Et la règle, c'est la règle, Air France refuse l'enfant à bord et tandis qu'on tergiversait entre parents et la compagnie aérienne, l'hôpital décide de déplacer le nourrisson en ambulance, 10h30 de route.
Ce soir, les parents de Léon sont sur le plateau de C'est à vous. On accueille Vanina Martinez et Nicolas Lejeune. Bonsoir Vanina Martinez, bonsoir Nicolas Lejeune. Je vous en prie, installez-vous, bienvenue sur le plateau de C'est à vous.
Merci.
Comment va Léon? Il est à Paris là aujourd'hui?
Léon est à Paris, oui, oui, il va bien.
Les examens ont commencé?
Les examens ont commencé. Il a eu un examen des yeux à son arrivée, qui était pas très bon. Donc l'opération est prévue pour mardi prochain.
Pas très bon parce que son pronostic visuel est engagé?
Oui.
C'est-à-dire qu'il pourrait perdre définitivement la vue?
Sur un œil, oui. Sur le deuxième, c'est un petit peu moins grave. Mais oui, le pronostic visuel est engagé et il faut opérer rapidement.
Ce qui explique l'urgence. Pour récapituler, il n'a que 3 mois, il n'a pas de document d'identité. Un acte de naissance, c'est tout, c'est ça?
Oui. On a été le déclarer, le strict minimum pour les parents, le déclarer en mairie, mais face à l'urgence de la situation, un nouveau-né de 530 grammes, on était un petit peu dépassé par l'administratif, et donc on l'a juste déclaré. Quoi.
On était plus dans l'urgence de sa vie, parce que le pronostic vital était engagé dans son premier mois de vie. Donc c'est vrai qu'on n'a pas pensé à faire venir un photographe privé pour le prendre en photo dans sa couveuse.
Alors, c'était pas un non catégorique d'Air France, il y a eu plusieurs versions, mais la procédure était trop longue.
La procédure, en fait, nous, on n'a pas traité avec Air France du tout. C'est l'hôpital qui s'en est chargé. Mais en effet, ils nous ont demandé des papiers d'identité. On a procuré l'acte de naissance en copie intégrale. Ils l'ont refusé. Face à l'urgence de la situation, l'hôpital a trouvé la solution de nous affréter une ambulance pour que Léon puisse regagner la capitale au plus vite.
Mais on vous a appelé en vous disant non, c'est pas possible, Léon est refusé à l'embarquement. Comment ça s'est passé?
Non. Nous, c'est l'hôpital qui a traité en direct avec Air France. On ne les a jamais eu au téléphone, on n'a jamais pu traiter avec eux parce que c'est un service interne sanitaire dont nous, on n'avait pas de contact ni rien du tout. Donc non, on n'a jamais traité avec eux.
Alors nous, on a pu avoir Air France pour le coup au téléphone aujourd'hui pour en savoir plus du côté de la compagnie aérienne. Louis Amar a pu avoir une réponse. On nous dit qu'Air France a cherché une solution, qu'on aurait pu remplacer la pièce d'identité par le livret de famille que vous n'aviez pas non plus avec vous, il était à Paris. Si
c'est ça. En fait, comme j'ai accouché à Nice et que ce n'était pas prévu, le livret de famille a été envoyé à notre domicile à Paris. On n'a pas pu le récupérer puisque Léon, notre petit garçon, était en réanimation. Donc,
à Nice, et vous restiez auprès de lui.
Exactement.
Ouais. Et Air France ne savait pas que l'hôpital avait décidé d'avancer le transfert et qu'en gros, une dérogation aurait été possible selon eux. Est-ce que vous comprenez, cela dit que d'un point de vue strictement réglementaire, c'est compliqué pour la compagnie d'embarquer un mineur sans preuve de son identité?
On comprend tout à fait, sauf que pour nous, l'acte de naissance est une preuve. On le déclare à l'État, la Sécurité sociale est au courant, la Mutuelle est au courant, la CAF est au courant. Enfin, pour nous, ce n'était pas un petit de nulle part, quoi. Enfin, l'acte de naissance, pour nous, aurait dû suffire face à l'urgence. Surtout un hôpital d'État demande un transport sanitaire. Comment une compagnie privée peut refuser ça, quoi?
Est-ce que ces 10h30 de voyage ont rendu le pronostic visuel encore plus engagé? Est-ce que ça a aggravé la situation? Comment est-ce qu'il a supporté le voyage? C'est toutes ces questions-là qu'on pose.
On n'en aura jamais la preuve. Le pronostic visuel, je pense qu'il est engagé peut-être pas à cause de ça, parce que c'est le temps qui fait que la rétine se décolle, et ça, on n'y peut rien, qu'il soit en voiture ou en avion. Mais en tout cas, avant qu'on parte en ambulance, Léon était sevré depuis 4 jours d'oxygène. Et à son arrivée, on a dû lui remettre un petit peu d'oxygène parce qu'il était quand même fatigué.
Donc,
10h30
d'ambulance. Il a été très fatigué par ce voyage.
Il a été fatigué par le transport, oui.
Est-ce qu'Air France vous a présenté des excuses depuis?
Absolument pas. C'est bien que vous ayez réussi à avoir Air France parce que nous, on ne les a pas eu du tout. On aurait aimé quand même avoir. Ils ont répondu à des tweets de personnes qui les interpellaient, puisqu'on est rentré dans une espèce de polémique qu'on ne voulait absolument pas. Hein, je tiens vraiment à le dire. Nous, ce qu'on veut vraiment, ce n'est pas la polémique. Ce qu'on veut vraiment, c'est essayer de faire avancer les choses. Essayer de dire écoutez, pour des enfants qui sont dans une situation de prématurité, avec des parents qui ont eu un parcours qui est quand même très compliqué, hein, le parcours de la prématurité, je vais arriver.
Prématurité.
Notre parcours est assez compliqué. Et ce qu'on voudrait, c'est que pour les prochains parents, ce soit un petit peu plus facile, se faciliter la vie dans des situations qui sont déjà très, très compliquées.
C'est la raison pour laquelle vous êtes venu témoigner ce soir.
Absolument.
Et vous allez tout de suite rejoindre Léon, qui est hospitalisé à Paris.
Oui, à l'hôpital des Rives de Seine à Neuilly. Et si je peux me permettre, juste remercier les équipes de l'hôpital de l'Archer à Nice qui ont été vraiment formidables et qui nous ont épaulés, autant Léon d'un point de vue médical que nous d'un point de vue psychologique. Ça a été vraiment un gros, gros soutien.
On espère que tout va bien se passer la semaine prochaine pour l'opération de Léon. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus témoigner ce soir sur le plateau de C'est à vous. Mathieu, autre sujet ce soir dans le 5 sur 5. Le Crédit Mutuel supprime le questionnaire de santé pour l'obtention d'un crédit.
Oui, question de santé et de finances à la fois pour ses clients, pour des crédits immobiliers jusqu'à 500 000 euros. Ce questionnaire médical empêchait d'anciens malades du cancer ou même des personnes diabétiques atteintes de maladies chroniques d'accéder au crédit au même tarif que d'autres. Le questionnaire empêchait même certains clients d'accéder au crédit tout court. Et le groupe bancaire a fait cette annonce cette semaine, une mesure qui lui coûterait jusqu'à 70 millions d'euros par an. Le directeur général du CIC explique à la démarche à Iban Raïs et Audrey Payas.
Nous sommes une entreprise mutualiste et ça pour nous c'est fondamental. Nous avons des valeurs et nous devons être au service à la fois de nos clients mais également de la société. À partir de là aujourd'hui sur le sujet de la maladie, on doit agir. Et le meilleur moyen d'agir, c'est effectivement de ne plus avoir ce questionnaire de santé. Donc si d'autres banques nous suivent, ça sera très bien pour tout le monde et nous ne pourrons qu'applaudir. D'ailleurs, je vois que depuis hier, il y a un certain nombre de réactions où on nous dit on va réfléchir, on va voir ce qu'on veut faire. Nous, on a réfléchi pendant l'été, on a pris notre décision au mois de septembre et on la met en œuvre dès le mois de novembre.
Le groupe bancaire a fait cette semaine concrètement pour bien comprendre ce qu'implique ce questionnaire médical. Camille Schmitt a rencontré une militante associative qui elle-même s'est vue empêchée d'emprunter alors que son médecin la disait guérie de son cancer du sein.
Soit vous avez un refus total, net, soit on vous impose des exclusions de garantie, ou alors on peut aussi vous imposer des surprimes très importantes pour payer l'assurance. Traverser une telle épreuve de maladie, c'est quelque chose qui n'est pas facile au quotidien, mais en plus, une fois qu'on a terminé, on a envie de reprendre le cours de sa vie, c'est normal. Et c'est vrai que c'est extrêmement, extrêmement douloureux.
On termine ce 5 sur 5 avec un événement international qui se déroulait chez nous,
oui,
en France.
On va terminer sur une note positive. Clermont-Ferrand, cette semaine, se tenait la toute première Coupe d'Europe de boucherie artisanale. Je ne joue pas le faux suspense, nous sommes champions.
La première place revient à la France.
Bravo, bravo.
L'équipe de France, championne d'Europe de la boucherie artisanale.
On a gagné, champion d'Europe de boucherie artisanale, ça ne s'invente pas. Alors il faut regarder dans le détail, c'est un événement qui nous racontait aussi la boucherie du futur. Regardez, masque de réalité virtuelle pour choisir ses morceaux, apprendre le métier, surtout pour l'apprentissage en réalité que cet objet. Continuons avec la Coupe d'Europe de boucherie, à quoi ça ressemble? Petit résumé de l'ambiance.
3, 2, 1, let's go!
Elle prépare donc une épaule de bœuf, c'est ça?
Ouais, c'est une épaule de bœuf, ça fait du poids. Il y a des points techniques, il faut qu'elle soit désossée.
15 minutes, c'est très très rapide, 15 minutes.
Ça, c'est des ailerons de volaille, c'est joli. Hein,
voilà, here we go.
Vous voyez, la technique, il a retiré le coxal, le sacrum, en même temps que sa noix. Ça, je le vois souvent sur les Pays-Bas.
L'Espagne en 4 minutes 12. Top! Bravo! Bravo! Merci! Bravo!
J'ai gardé pour vous de côté l'épreuve reine de la compétition, l'épreuve vitrine.
Ah!
Là, vous avez une pièce noble qui est une couronne d'agneau sur un plateau tournant. Une couronne se fait avec un carré de côte couvert. Présentation originale, ça ressemble à l'Italie. L'Italie, c'est un pays d'art.
Tout ce charme italien.
De l'originalité et de la couleur aujourd'hui. On achète avec quoi en premier? Eh bien, on achète avec les yeux. Moi, je trouve ça formidable aujourd'hui parce que quand je vois ce gigot qui a été tout préparé avec comme des écailles dessus.
C'est magnifique.
Vraiment.
Et un bon artisan boucher doit aussi présenter une belle vitrine. Une autre idée pour la déco des boutiques, tiens, à Clermont-Ferrand, on a découvert une tour Eiffel entièrement réalisée en eau. Oui, c'est plus rustique que les Legos. Sachez en tout cas que toute la viande découpée a été donnée au Resto du Cœur qui en assurera la distribution. Je tiens aussi à préciser que dans quelques mois, il y a les championnats du monde. Donc évidemment, on y sera. On ne manquera ça pour rien au monde, c'est un sacrament.
Ben voilà, la France rentre dans l'histoire par tous les moyens possibles et imaginables. C'est comme ça, cher Jean-Noël Jeannet. Aujourd'hui, 11 novembre, c'était la journée de Clémenceau.
Oui, il faut le célébrer, on ne peut pas le taire. Et on peut renvoyer le public à son merveilleux musée qui est rue Franklin, où sa chambre et son appartement est resté exactement comme le jour où, au téléphone, on lui a dit « Monsieur le Président, la guerre est finie
». Ah oui, c'est incroyable, vous donnez très envie d'aller voir ce musée.
C'était le but.
Et je rappelle vos mémoires, Le Rocher de Susteine, 1942-1982, c'est le premier volume, j'imagine, de vos mémoires.
Avec une visite à Colombey.
Ah ben voilà.
En décembre 1969, effectivement, où j'avais accompagné mon père, je la raconte en détail.
La boucle est bouclée. Merci, cher Jean-Noël Jeannet. C'est l'histoire de Lachlan Lever, un petit garçon australien sourd de naissance qui entend à un mois et demi la voix de sa mère pour la première fois.
Hello, Lachlan.
Oh, darling.
Oh.
Hello.
He's smiling.
Hi. Oh,
Lachlan. Hello.
Hello, darling.
He's smiling.
C'est l'histoire d'Antoine, devenu au fil des années malentendant et qui redécouvre le bruit de la pluie et de la pomme qu'on croque.
Tu entends la petite musique de la pluie ? La pluie sur la fenêtre. C'est magique, non ?
Y a un problème ?
Sandrine Kiberlin, Pascal Elbé, bonsoir à tous les deux. On est ravis de vous accueillir à l'occasion de ce film. On est fait pour s'entendre un super film qui fait rire, qui fait pleurer, extrêmement émouvant et qui raconte un peu votre histoire, Pascal. Parce que vous vous êtes rendu compte, un peu à la manière de votre personnage Antoine, que vous n'entendiez plus rien ou quasiment plus rien.
Ce serait dramatique. Non, j'entends un peu moins bien. Voilà, ce qu'on appelle un malentendant.
Un malentendant, mais vous étiez jeune pour perdre à ce point l'audition. Partie de votre audition. Attends, je suis hyper...
Oui, commencez pas comme ça, sinon... En fait, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour perdre de l'audition. Moi, j'ai été détecté il y a 10 ans, mais on peut détecter très tard, ou jamais d'ailleurs, on peut passer à côté de sa vie sans le savoir. Et j'ai été détecté, puis évidemment, ça a un peu bouleversé mon quotidien. Mais aujourd'hui, je suis là devant vous parce que j'en ai fait un film.
Vous en avez fait un très joli film, Sandrine.
Fandrine, c'est mon nouveau prénom.
Vous êtes
c'est
amie
le prénom
Pascal.
Que me donne Pascal quand il entend pas Fandrine.
C'est vrai.
Hyper solidaire avec toi.
Ah non, mais c'est gentil, vous allez faire l'émission de mon point de vue.
Voilà, non, mais moi, figurez-vous, j'aime me faire tester parce que la dernière phrase du film, Pascal, je l'ai écoutée 3 fois sans la comprendre. Il a fallu que quelqu'un vienne me dire ce que vous disiez. Je pense que j'ai perdu de l'audition, très sérieusement. Grosse prise de conscience de mon côté. J'ai chaud.
Qu'est-ce que vous vouliez demander à Fandrine ?
Vous connaissez depuis longtemps, Pascal.
Oui.
Et vous n'étiez pas forcément au courant pendant longtemps. Vous trouviez juste un peu
à côté de la baraque. Elle entend bien. Parce que oui. Là, vous lui parlez comme si elle était
malentendant. Non, de toi, on parlait de toi.
Vous connaissez depuis longtemps, Pascal. Non, mais elle entend. Elle
oui, je fais les gestes.
Non, là, ça se passe bien. Là, ce sera peut-être plus...
Ah non, j'ai chaud. Trucs, ça se passe très mal.
Je le connais depuis longtemps.
Oui.
Mais lui-même ne le savait pas. Donc
oui.
En fait, lui, il a pris une habitude qui était celle de céder de évidemment,
un petit
de la lecture labiale. Et puis même, il n'avait pas conscience, comme dans le film d'ailleurs, quand il dit « j'entends rien » ou « j'entends bien ». Il ne sait pas, il loupe des trucs, des petites intentions, il sait qu'il n'est pas... Il ne sait pas ce qui lui arrive, parce qu'il a toujours un temps de retard, mais...
Vous mettiez ça sur le compte d'une distraction. Peut pas l'admettre aussi. Ouais.
Non, moi je le trouvais, ça, c'était un petit charme que je lui trouvais de. Il a un peu tête en l'air, quoi. Un peu lunaire.
Mais c'est vrai que c'est charmant. Et le personnage a ce charme-là. Et voilà, un charme qui ne vous laisse pas indifférent, Sandrine. On en parle très longuement. Dans un instant, il y aura
c'est
le vu.
Du dialogue de sourd.
Oh non. Sur ce, je dis rien. À tout de suite.